40 418 971 1021 si vous avez des choses à nous dire par texto. J'espère que vous passez une belle journée, que votre neige a été ramassée, parce qu'on va se le dire, ce week-end, on a eu une méchante bordée de neige.
Surprise.
Dans le secteur de Val-Bélair. Oui, il y a un 40 cm. Québec, c'est quoi? Autour de 30?
Un petit peu moins que vous autres, oui.
Parce que je comprends, en Beauce aussi, on a eu une belle bordée de neige. C'était de toute beauté là, pour ceux qui n'étaient pas trop en beau fusil de pelleter. Moi, je regardais un peu les arbres, toute la grosse neige épaisse.
Elle est lourde, la neige, quand tu pètes, là, pas facile pour les bras.
La bordée de neige qu'on a eu en fin de semaine, ça aurait dû être la bordée de neige, genre le 24 décembre.
Exactement.
Ça aurait été de toute beauté.
Mais là, on était le 10 mars.
On était le 10 mars.
Ou dans la semaine de relâche pour les enfants.
Ouais. D'ailleurs, avis à tous, je recherche cette fameuse marmotte qui avait calé un printemps hâtif. Moi, je la mettrais dans le poêle.
Ouais, ben c'était une marionnette vu que l'année d'avant, l'autre était morte.
Exact.
On fait ce qu'il pouvait ce matin.
Hey, on parle d'un sujet un peu plus sérieux, les amis, pour les prochaines minutes, parce que ce qui se passe à Haïti, c'est grave, sont en crise depuis le meurtre de Jovenel Moïse, où des gens d'un commando est rentré directement dans le palais présidentiel pour aller abattre le président. Il n'y a plus rien qui va. Les gangs de rue semblent emmener très large à Haïti et le premier ministre haïtien Ariel Henry semble pas être capable de reprendre le pouvoir à Haïti. Et on a eu idée d'inviter Franz Voltaire, qui est historien, expert d'Haïti, qui est aussi auteur. Monsieur Voltaire, merci beaucoup d'être avec nous. Oh, ça va être lui.
Bonjour aux auditrices et auditeurs.
Merci d'être là, Monsieur Voltaire. Haïti, vous intéressez à Haïti depuis des décennies, des décennies, des décennies. Comment vous voyez?
En fait, oui, parce que je dirige ce centre que tu travailles sur Haïti et la Caraïbe, le syndicat qui depuis 40 ans travaille sur Haïti et la Caraïbe.
Comment vous voyez Haïti présentement versus nous?
Bon, écoutez, on a la crise peut-être la plus profonde que vit cette société. Et là encore, il faut se rappeler deux choses, et très rapidement. Après le tremblement de terre qui a été dévastateur, plus de 300 000 morts, la destruction physique, là encore, il y a eu la mise en place d'une commission de reconstruction d'Haïti qui a été un fiasco complet. Et ça, il faut le rappeler, cette commission, d'ailleurs, il y a des ouvrages qui ont été publiés à ce sujet, cette commission était présidée par l'ancien président américain Bill Clinton. Et ça, on comprend très bien que ça a donné lieu à un chaos financier, mismanagement, comme on dit en anglais, name it. On a eu plus tard la décision que cette commission a prise et que c'était Mme Hillary Clinton qui était ministre des Affaires étrangères, suivant un responsable brésilien qui a démissionné de l'OEA à l'époque, on a nommé, et il dit non pas élu, on a nommé sous pression américaine un chanteur lui-même qui, comme il le raconte, qui était impliqué dans le trafic, c'était Sweet Mickey Michel Martelly comme président. Depuis lors, on rentre dans une sorte de dérive énorme. Michel Martelly n'a pas pu rester face aux pressions populaires. On a fait de nouvelles élections manipulées tout aussi bien. Et c'est arrivé avec Jovenel Moïse, président qui sera assassiné. Et là, on a eu le développement de gangs armés. Il faut se rappeler que Michel Martelly lui-même se définissait. Tout le monde peut aller voir sur YouTube ces vidéos où il se définissait comme un bandit légal.
Pourquoi est-ce qu'ils ont pris de l'expansion comme ça, ces gangs armés-là? Qu'est-ce qu'ils réclamaient? Ils vivaient dans l'extrême pauvreté, souhaitaient reprendre un pouvoir pour sortir le peuple de tout ça. C'était quoi la motivation première?
D'abord, les gangs, il faut se rappeler, ce n'est pas un phénomène seulement haïtien. C'est un phénomène qui était dans toute l'Amérique centrale. On se rappelle que le président Bukele au Salvador a pris des décisions extrêmes en faisant emprisonner les Maratrucha et les M-19, qui étaient des gangs qui opéraient au Salvador. Donc, on voit aussi, parce que ces gangs opèrent sur les territoires qui sont des quartiers périphériques de la capitale essentiellement, Madame Lalim, qui était une ambassadrice américaine représentant du Bureau des Nations Unies en Haïti, avait favorisé ce qu'elle appelait à l'époque la réunification des gangs pour dire que c'était plus facile de négocier avec les gangs. Et c'est là qu'on a eu l'émergence du fameux barbecue, ex-policier devenu chef de gang. Donc, on se rend compte du rôle qu'a joué l'international lors de l'assassinat du président Jovenel Moïse. C'est M. Ariel Henry avait été nommé 2 jours auparavant. Il y a des allégations qu'il aurait participé à cet assassinat. Il s'agit d'allégations pour l'instant.
Ouais. Et il y a des allégations, Monsieur Voltaire, il y a des allégations sur sa femme aussi qui a moult fois changé sa version des faits au palais. Elle avait mentionné qu'elle s'était cachée en dessous du lit, mais quand on a regardé...
Exact. Il n'y a pas de cache.
Quand on a regardé la circonférence de madame, ça ne correspondait pas avec l'espace entre le plancher puis le lit. Là.
Tout à fait, tout à fait. Et en plus, on ne comprend pas des professionnels colombiens qu'on a fait entrer pour assassiner le président,
ouais.
qu'il n'y a pas eu de résistance, que le seul mort, c'est le président. Tout ça semblait suspect. Mais disons que ce sont des allégations pour l'instant, puisqu'il n'y a pas encore de jugement, même si un juge a demandé à madame Martine Moïse de se présenter. Bon, mais moi, pour l'instant, pour comprendre la nature des gangs, il y a une nature structurelle, c'est-à-dire ces gangs se sont développés d'abord avec autour de 3 types d'activités économiques. Le kidnapping, donc, qui va du petit kidnapping au grand kidnapping. Deuxièmement, le trafic de stupéfiants, qui permet que les stupéfiants, ils ne passent pas d'Haïti vers le Canada, les États-Unis ou l'Europe, ça passe vers la République dominicaine. En fait, Haïti, contrairement à ce qui s'était passé au cas qui se passe en Libye ou en Irak de l'après Saddam ou de l'après Kadhafi, où il y avait des dépôts d'armes énormes, et donc qui va alimenter tous les djihadistes du coin, en Haïti, Haïti ne produit aucune arme, Haïti n'a pas une industrie. Or, on sait que 70% des armes qui viennent d'Haïti, qui sont en Haïti pour les gangsters, viennent essentiellement du port de Miami et ou de la République dominicaine. Donc, il y a tout un trafic qui se fait, soit parce qu'il y a des complicités avec l'armée dominicaine, soit parce qu'il y a des complicités avec des entrepreneurs qui laissent entrer dans les ports les armes qui sont distribuées, et surtout les munitions, parce que Haïti n'a pas une industrie, donc ne fabrique pas de munitions. Mais ça a été il y a très longtemps qu'on dit aux États-Unis que les différentes instances de la société civile demandent aux autorités américaines d'intervenir. Regardez, c'est le même problème qui se pose au Mexique aussi pour l'alimentation des cartels.
Ouais, mais Monsieur Voltaire,
les gangs donc se sont développés, disposent de ressources qui les rendent. Et troisièmement, les politiciens ou les hommes d'affaires, certains hommes d'affaires pour préciser, où certains membres de l'élite politique utilisaient les gangs à leur profit.
Monsieur Voltaire, d'un regard extérieur, puis on regarde ce qui se passe à Haïti depuis des décennies, nous, on a toujours l'impression qu'Haïti a toujours besoin de l'aide extérieure. Est-ce qu'à un moment donné, Haïti va être capable de se prendre en charge puis de prendre le dessus sur la criminalité puis les dictateurs qui sont passés là, qui font juste voler leur peuple?
Oui, mais regardons, qui est-ce qui les mène, qui est-ce qui a... Monsieur Sainte-Infos, qui est un professeur brésilien qui a été le directeur adjoint de l'OEA en Haïti, il a démissionné parce qu'il a dit que c'est l'international qui a manipulé pour biaiser les élections.
Mais quel est l'avantage? C'est là qu'il a démissionné. Mais quel est l'avantage? Hein? Quel est l'avantage? Quelles sont
parce
les ressources d'Haïti?
Il y a une certaine vision de maintenir telle qu'elle, parce que qu'est-ce qui intéresse les États-Unis surtout? Parce que le Canada, c'est un acteur de second ordre, comme la France aujourd'hui en Haïti. Les États-Unis, ce qui les préoccupe, c'est la question de l'immigration. Et donc, il faut avoir une apparence de démocratie pour pouvoir continuer à déporter les Haïtiens qui essaient de passer soit par la frontière de Tijuana, soit par les boat people. Or, cette question, vous savez, nous, on a publié un livre, parce que je suis éditeur et le centre publie des livres, qui s'appelle, en 1987, ça veut dire ça fait quand même un bail. C'est un économiste américain, le livre s'appelait « L'aide à la migration ». On l'avait traduit en français parce qu'effectivement, c'est un livre déterminant qui disait que les politiques d'aide mises en place par l'international vont faciliter une ONG-nisation d'Haïti, de transformer Haïti, comme on le voit par rapport à Gaza aujourd'hui, comme on l'a vu dans d'autres zones, c'est une politique humanitaire mise en place. C'est-à-dire, ce n'est pas une politique qui est lié au développement d'Haïti, et l'aide humanitaire qui est elle représente une infime partie, et même elle va aux privilégiés, elle va au gouvernement, mais en Haïti, l'apport important, c'est ce que les Haïtiens de l'extérieur envoient en Haïti, qui est 10 fois plus important. Je vais prendre un exemple, l'aide canadienne, on peut la chiffrer à 60 millions de dollars. Les envois des Haïtiens canadiens sont un peu plus de 300 millions de dollars. Donc, on se rend compte que l'aide n'a jamais développé aucun pays.
OK. Mais si on revient,
donc,
parce que vous êtes...
Il n'y a pas d'investissement en Haïti.
Oui, monsieur Voltaire.
Effectivement.
Monsieur Voltaire, j'aimerais vous poser des questions, s'il vous plaît. Je reviens à Papa Doc, je reviens à Bébé Doc. C'est des gens qui n'ont pas nécessairement été très positifs pour leur Haïti. C'est des gens qui ont énormément volé à la population haïtienne. Je pense que Papa Doc s'était rendu président à vie, là, ce qui est assez particulier.
Oui, oui. Et Bébé Doc aussi.
Les États-Unis, je ne sais pas c'est quoi les États-Unis avaient rapport à ce moment-là, mais... Ça doit venir d'Haïti. À un moment donné, il faut cesser de toujours attendre de l'aide extérieure.
Non, mais attendez.
Il faut que ça vienne
Papa
de l'intérieur.
Papa Doc ou Baby Doc, il faut bien comprendre. Leur régime a été soutenu parce qu'effectivement, il y avait le cas cubain. Et c'est par rapport à Cuba.
Avec Fidel Castro.
Ça a été depuis 1962, quand il y a eu la rencontre pour exclure Cuba de l'OEA. Cette rencontre s'était faite en 62 à Punta del Este. Et à ce moment-là, ce qui a été fait, c'est de négocier le vote haïtien en appui au régime. D'ailleurs, moi, j'avais fait un film sur le père et le fils, et un des ministres de Duvalier disait que les Américains nous ont inondés d'aide parce qu'on menait une politique vis-à-vis de Cuba. Donc, il faut bien comprendre le jeu géopolitique.
Ouais.
Deuxièmement, on les a soutenus, tous ces régimes-là. Écoutez, pendant qu'on a un discours aujourd'hui sur la démocratie, on a une rhétorique. Mais regardez, on soutient qui ? Ariel Henry. Ariel Henry, personne ne l'a nommé. Il n'a pas, il va avoir 3 ans. Et chaque fois que la société civile haïtienne et certains politiques se sont réunis pour dire, écoutez, il faut une transition, il faut mettre en place des institutions, la réponse du corps groupe, essentiellement des États-Unis, ne nous trompons pas, ce n'est pas la voix canadienne qui va être prédominante, eh bien, ça a été, non, on veut des élections tout de suite. Or, ça allait faire 3 ans qu'on soutient Ariel Henry comme premier ministre qui n'a été nommé que par un tweet de Madame l'ambassadrice américaine, Madame Lalime, Hélène Lalime. Il y a M. Henry, il n'a jamais mis en place aucun mécanisme pour faire des élections. Il n'a jamais, en Haïti, aujourd'hui, Henry gouverne sans qu'il n'y ait aucune instance élective. Il n'y a aucun maire, il n'y a aucun député, il n'y a aucun sénateur. Or, pourquoi on les a soutenus alors que l'on a un discours sur la démocratie?
Oui.
Là, ce que je veux dire maintenant, c'est évident que l'international ne pourrait pas avoir toute cette importance s'il n'avait pas rencontré des gens qui, en Haïti, une classe politique qui vit de prébendes, qui vit de pillage des ressources publiques, des quelques mètres de ressources publiques.
Mais qu'est-ce qu'on doit faire en tant que Canadien ou Américain pour remettre
Haïti
sur les rails?
Je crois qu'il y a deux problèmes maintenant. Il y a deux problèmes parce qu'on a poussé ça jusqu'au bout. Il n'y a aucune institution qui fonctionne. Donc, les Américains sont pris avec un dilemme. Puisqu'ils ont créé cette situation chaotique, on est pris avec deux choses. Il y a d'un côté la question, comme ça se pose à un autre niveau, il ne faut pas confondre, mais c'est un autre niveau. À Gaza, il y a la question de l'aide humanitaire à une population, 60% des gens à travers sont menacés de survie, puisque le principal port du pays est fermé, l'aéroport est fermé. Donc, quelque part, il y a la nécessité de dire qu'il faut appuyer ces gens. Ça, on est dans le très court terme, comme après une catastrophe, c'est l'humanitaire. Deuxièmement, il faut mettre en place renforcement de la police nationale. Par exemple, il faut se rendre compte que la police nationale avait des embargos sur les armes à vendre à la police nationale. Laquelle police nationale a été formée par les Américains, les Français et les Canadiens? Donc, ce sont des choses que la plupart des citoyens en Haïti ne comprennent pas. C'est-à-dire comment il y a un embargo sur les armes alors que les bandits arrivent à avoir toutes sortes d'armements venant des États-Unis, puisque Haïti ne produit pas, c'est pas un pays industriel, Haïti ne produit ni armes ni munitions. Donc, si on voulait, on aurait pu empêcher la sortie de toute cette contrebande d'armement vers Haïti. Donc, ce sont des problèmes. Aujourd'hui, il faut être à l'écoute, je dirais, du peuple haïtien.
Oui.
C'est la position des Haïtiens de la diaspora de dire, écoutez, il y a des solutions haïtiennes qui sont proposées, les appuyer, renforcer cela pour avoir une transition. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que la démocratie va s'installer en Haïti. Il faut une transition pour reprendre les mots d'un écrivain haïtien, Émile Olivier, canado-haïtien, qui disait qu'il faut que Haïti commence à avoir les problèmes normaux de pays normal. Donc, quelque part, il faut mettre en place et appuyer des réformes judiciaires, la réforme des institutions,
ouais.
Parce que faire des élections, qui ne sera que des élections, la dernière élection, on votait sur les pratiquement 5 millions d'électeurs, à peine moins de 500 000 personnes ont voté, parce que les gens disent, écoutez, pourquoi vous ne les nommez pas vous-même?
Monsieur Voltaire, ça a été un plaisir de discuter avec vous ce midi.
Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tout le monde.
Merci beaucoup pour vos éclairages. Franz Voltaire, qui est historien, expert d'Haïti, qui est probablement un Haïtien d'origine aussi. C'est d'une tristesse ce qui se passe là. Si vous êtes moindrement attentif depuis des décennies et des décennies, cette population-là est toujours assiégée par des politiciens véreux ou encore des gangs de rue. Puis pour connaître des gars à Québec qui sont allés en mission à Haïti, eux, ils trouvaient ça particulier parce qu'ils devaient entraîner d'autres policiers haïtiens. Puis des fois, deux semaines plus tard, le policier qu'ils ont entraîné changeait de gang. Il n'était plus du côté des policiers, il était rendu dans les gangs de rue. Puis les enfants sont très impliqués aussi dans les gangs de rue parce qu'ils font de la surveillance sur les toits. Donc quand les policiers québécois, qui étaient en formation à Haïti avec d'autres policiers haïtiens, se promenaient dans certains secteurs, c'était les enfants qui envoyaient les signaux pour dire qu'il y a des policiers qui s'en viennent. Donc, les gros durs des gangs de rue arrivaient armés très rapidement et les flics devaient se sauver. Donc, ils devaient faire l'intervention rapidement, aller chercher le petit Thomas qui est problématique, puis le sortir de là comme si c'était une intervention de la CIA hyper rapidement pour ne pas se faire tirer dessus.
Ça, c'est difficile. En plus, de façon sociétale, quand toi, tu ne veux pas t'en prendre un enfant dans ta vie, mais cet enfant-là est en train de miner un peu un travail international aussi. Puis lui, il n'a rien à perdre parce que Il y a toujours cette problématique-là dans des pays qui sont, pour moi, c'est sous-développé, là, en termes politiques, oui, mais socialement, point. Quand tu es capable d'aller avoir autant de difficultés gouvernementales, puis un gang de rue soit capable de prendre d'assaut l'aéroport et le port en ce moment, puis empêcher tout le monde d'entrer et de sortir, on s'entend qu'on est sous-développé, là.
Ouais.
Puis les avantages sont bien plus politico-économiques que bien d'autres choses en Haïti. Je veux dire, ils n'ont rien d'autre à donner que peut-être leurs ressources et leur point de passage. Mais quand tu es pauvre, quand tu n'as absolument rien, puis que ta chance d'avoir quelque chose, c'est peut-être tomber dans la criminalité, bien, tu vas tomber dans la criminalité pour certaines personnes. Puis c'est pas parce que tu es une mauvaise personne. C'est que tu veux que ta famille s'en sorte et
ben,
tu veux t'en sortir.
Famille. Tu veux nourrir ta famille
et
tes
enfants. Tu n'es pas fondamentalement une mauvaise personne, mais c'est ton seul moyen. Puis c'est ce qui s'est beaucoup passé en Haïti quand on parle de changer de clan ou de garnir les clans des gangs de rue. C'est des gens qui avaient rien, c'est des gens qui ont rien.
Ouais.
Tu regardes ceux qui s'évacuent depuis quelques jours par eux-mêmes, là, les familles. Là. Regarde les images. Tu as un père avec un tapis sur la tête, puis ils ont deux buckets de plastique avec deux sacs de plastique remplis à moitié de ce qu'on peut dire guenilles et linge. Hey, c'est d'une tristesse. Puis est-ce qu'on peut sauver le peuple en ce moment? Je crois que non.
Mais il va falloir que ça vienne d'eux. T'sais. Juste, il a parlé de barbecue. Là. J'ai lu un peu sur ce fameux barbecue-là. C'est un gars qui est un policier, qui s'est fâché contre le régime politique, puis qui a décidé de devenir un membre de gang de rue, puis il en est devenu le chef. C'est un gars qui connaît toutes les stratégies policières, puis il est capable d'être extrêmement cruel, puis qui veut se faire de l'argent aujourd'hui, puis il y a une certaine reconnaissance aussi. Il y a des gens à Haïti qui le considèrent comme un dieu.
C'est fou.
Là. Parce que pour lui, il a sauvé le peuple, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, quand tu as tellement de pouvoir, vient aussi l'envers de la médaille, en abuser, aimer en avoir.
Puis
c'est ce qui se passe avec les gangs de rue en ce moment.
Puis il faut que ça déborde. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Il ne faut pas que ça vienne des Américains ou encore des Canadiens qui sont d'un second ordre, comme M. Voltaire l'a dit. Il faut que ça vienne de l'intérieur ou des gens qui sont partis d'Haïti puis qui sont au Canada, aux États-Unis, qui doivent prendre place à ces endroits-là. Il faut qu'ils se prennent en main. Puis je sais que ça ne doit pas se dire à la radio, mais en même temps, il faut que je rapporte ce que je me suis fait dire. Des militaires canadiens qui, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de spécial à Haïti, spécial, genre dommageable, tremblement de terre, tempête, tout ça, ben ils se déplaçaient là-bas. Puis des fois, c'était 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois après que l'événement a eu lieu. C'était pour aller aider, pour prêter main forte. Puis il n'y avait rien qui avait été fait. Les gens étaient assis sur une roche puis attendaient l'aide.
C'est fou.
Parce qu'ils ont toujours été habitués comme ça, que ce soit les autres pays qui les sortent de la merde constamment. Ils ont toujours été habitués comme ça. Donc, quand les militaires canadiens arrivaient, ben OK, c'est beau, on peut commencer à travailler avec eux autres. Mais ils attendaient toujours l'aide.
Cependant, la révolte que pourraient créer peut-être les habitants est moindre. Ils vont se faire anéantir en quelques secondes par un gang de rue ou un gouvernement. Ils ont absolument rien. Et c'est là que l'aide extérieure est encore requise. Mais là, il ne faut pas que ce soit une aide extérieure qui abuse d'eux ou encore qui vont pour leurs propres intérêts. Puis c'est ce qu'on a vu par le passé aussi. Certains pays qui ont choisi d'aider d'autres pays en crise pour leurs propres intérêts en disant « Vous allez nous devoir quelque chose. » La Chine, en ce moment, là, en Afrique, là, elle est extrêmement présente en disant « On va vous donner des ressources, on va vous faire mieux vivre, on va vous construire des hôpitaux, on va vous construire... » Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils exploitent les ressources.
C'est bizarre parce que c'est à même mille, mais la République dominicaine, c'est l'autre bord. Là. Ils sont capables d'avoir un système qui se tient.
Exact, ça va bien. Là, c'est pas...
Puis quelques kilomètres plus loin, mais c'est la guerre civile. C'est d'une tristesse, mais cela dit, il va falloir qu'Haïti, à un moment donné, se prenne en main avec l'aide des Haïtiens qui habitent maintenant au Canada puis aux États-Unis.
Et ironiquement, je connais quelqu'un qui est parti en croisière de Miami qui s'est rendu à Haïti la semaine dernière.
Okay.
Ironiquement, il y a le tourisme des gens qui ont plus d'argent. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Là.
13h01, on revient. Marceau le midi.